Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler du dérèglement climatique. C'est au mois d'août, là, que la télé nous a prévenus. Après un long sujet sur la pandémie et un autre tout aussi long sur le football, nous avons eu quand même le droit, en quelques secondes, à cette information sur l'accélération du dérèglement climatique. On aurait pu penser que c'était de loin l'information la plus importante, eh bien non, mais on ne pourra pas dire que l'on ne vous avait pas prévenu. Alors le GIEC, le Groupement international d'évolution du climat, enfin ça dépend comment on le prononce, puisqu'à l'origine c'est un sigle anglais, vient d'annoncer une accélération de ce dérèglement. Ce n'est même plus un problème pour les générations futures, on disait pour nos enfants, etc., souvent dans les discussions, puisque finalement on aura une augmentation de la température que l'on peut dire catastrophique en 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. Nous ne sommes plus dans les prévisions futures que l'on avait en tête, probablement encore, de plus 0,5 degrés ou de plus 1 degré. Nous sommes déjà à plus 1,1 degré et nous allons droit vers un seuil d'irréversibilité qui nous était fixé dans les précédents rapports entre 1,5 et 2 degrés. Faut-il le rappeler, il ne faut pas voir dans ce chiffre de plus 2 degrés désormais, donc à brève échéance, une traduction simplement de plus 2 degrés là où nous sommes. En fait, c'est une moyenne. C'est une moyenne, mais qui entraîne des dérèglements permanents, des phénomènes extrêmes, pas seulement en termes de température, puisque c'est l'inadaptation de nos cultures. C'est un impact sur nos côtes, avec la mer qui gagnerait du terrain de façon très considérable, et un emballement sans marche arrière. Donc c'est tout un ensemble de phénomènes, pas simplement de dire qu'on aura un tout petit peu plus chaud, c'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce que le GIEC ? Alors cela signifie groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat. Ce groupe dépend de l'ONU et représente 195 États. Ces études ne sont généralement pas remises en cause, à part quelques farfelus, on a eu Donald Trump et quelques autres. Mais pourquoi le GIEC se trompe-t-il tout le temps ? Moi, c'est la question que je me pose, et dans un seul sens, celui de la minimisation. Si l'on ressort tous les rapports du GIEC, ça a toujours été dans le sens de la minimisation, et le rapport suivant, finalement, nous dit que la situation est plus grave. Eh bien, la seule réponse que je trouve, moi, est qu'il y a une influence des décideurs de ce monde. Autrement dit, les transnationales du pétrole, de l'énergie, du commerce, de l'alimentation, des transports, et leurs commissionnaires qui incitent à ne pas trop en faire. Puis ce groupement international d'experts est évidemment intéressant, mais il est quand même sous l'autorité d'une institution politique. Alors depuis quand nos dirigeants politiques, au fait, sont-ils au courant ? C'est aussi une bonne question que l'on peut se poser, une question qui ne va pas nous rassurer, puisqu'en fin de compte, le premier rapport qui n'avait pas été contesté à l'époque date de Jimmy Carter, qui avait commandé un rapport sur l'évolution du climat en 1979. C'est ce qu'on appelait le rapport Charney, qu'on appelle d'ailleurs encore le rapport Charney. Et donc, il y a plus de 40 ans, on savait finalement qu'il y avait une énorme catastrophe prévisible dans ce domaine. Donc pas besoin de vous dire qu'on n'en a pas tiré les enseignements depuis 40 ans. Alors ça me donne aussi l'occasion de revenir sur la Convention citoyenne sur le climat qui a abouti à un rapport en 2020, celle qui a été lancée par le président Macron 2 ans après qu'il ait été au pouvoir, puisque bon... J'y reviendrai, il avait déjà gagné 2 ans quand il a lancé l'affaire. Cette opération était une opération de communication, on peut le dire aujourd'hui, on peut le constater aujourd'hui, puisqu'on le disait déjà pour un certain nombre à l'époque. Alors je passe sur l'oubli de mesures essentielles qui ne sont pas dans le rapport et le fait qu'on n'avait pas besoin de convention pour savoir ce qu'il faut faire. Hein, évidemment que tous les spécialistes sur la question, et même ceux qui ouvrent simplement les dossiers, peuvent s'en faire rapidement une idée. Alors l'escroquerie réside surtout, finalement, dans cette opération médiatique à mi-mandat, avec un programme fixé à 2030, c'est-à-dire après la fin du mandat, après que, a priori, les responsables politiques en question ne soient plus dans les parages. Alors c'est un vieux truc, hein, ce qui permet d'exonérer le pouvoir, de prendre des mesures concrètes au moment où il doit les prendre, et en particulier pour ce qui nous concerne, pendant la durée de cette présidentielle, par exemple, ou avec l'actuel gouvernement. Donc pas de mesures véritables, en tout cas suffisamment importantes, à brève échéance, mais des promesses pour 2030. Bon, c'est un vieux truc qu'on va retrouver dans d'autres secteurs. Alors avant de se quitter, je voulais vous donner quelques informations, seulement quelques-unes, sur qui pollue le plus sur notre planète et aussi en France. Alors au niveau international, c'est le transport maritime de marchandises qui pollue davantage que l'ensemble des automobiles de notre planète. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas su et qui nous ramène bien sûr à toutes les discussions sur les circuits courts et pourquoi on nous fait acheter de plus en plus fréquemment des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Puisque là, on voit qu'on a un sérieux os à ronger avec ce transport maritime international. Au niveau national, le premier secteur de pollution est le routier. Bon, ça, en général, on le sait. Et à l'intérieur du transport routier, eh bien, c'est le transport routier marchandises qui pollue en volume davantage que la voiture en France. Pendant ce temps-là, pendant que le transport routier marchandises continue de progresser, eh bien, on continue de casser le rail et le train qui pollue pourtant 10 fois moins et qui est saboté pour le transport de marchandises à volume ou à poids, je ne me souviens plus, égal, mais c'est probablement à peu près la même chose. Alors ce ne sont que quelques exemples de ce qui est peu dit ou pas dit. Donc je voulais quand même le situer, simplement aussi pour dire à ma façon que finalement, les solutions, on les connaît, il y a une volonté de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Alors en conclusion, je dirais que les vraies mesures pour la survie de notre humanité, eh bien elles sont connues. Le danger n'est plus pour après-demain, mais il est pour demain. Il est grand temps de poser le problème d'une façon assimilable à un crime contre l'humanité. Je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Oh.